ans pour la transition écologique sud-africaine. Maman aussi, pour sa chronique du Gondwana, on parlera conflits armés et gros sous. Et puis notre invité, Raymond Dongsima, Premier ministre de la transition du Gabon, référendum constitutionnel samedi pour les Gabonais, le chef du gouvernement fait campagne pour le oui. Mais tout de suite, c'est l'heure des sports. Et les sports, ce matin, c'est avec Antoine Grenier. Bonjour Antoine.
Bonjour Xavier.
Une actualité sportive dominée par le football. Cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2025. Une seule victoire hier, celle du Liberia dans les matchs qui se jouaient hier. Donc.
Les Libériens qui ont dominé le Togo sur un pénalty de Mohamed Sangaré en toute fin de match. Succès 1-0 qui ramène provisoirement le Liberia à trois longueurs de la Guinée équatoriale en attendant le match d'une Zalang nationale face aux Algériens. Pour le Togo, en revanche, nouvelle mauvaise opération. Cinq journées, deux petits points pris, trois défaites consécutives et toujours le même constat pour le sélectionneur Darini Bombé.
On a commencé le match avec de bonnes intentions. On était venu ici pour faire un résultat, c'est-à-dire gagner. C'est le résultat contraire qui s'est produit. Je tiens à féliciter l'équipe du Liberia pour cette victoire qui leur permet de passer devant nous. Je pense que les 20 premières minutes, si on menait 0-3, il n'y avait rien à dire. Donc on a eu des occasions qu'on n'a pas su concrétiser, voire même sur l'ensemble du match. C'est un match qui a été maîtrisé de bout en bout. Mais comme contre l'Algérie, il y a un pénalty qui... Je n'ai pas encore vu les images pour pouvoir donner mon avis là-dessus et qui nous pénalise et qui permet au Liberia de gagner le match. Voilà l'effet du match. Et en résumé, je pense que nous, on doit travailler sur le fond de la finition, d'être plus tueur dans le rectangle adverse. Il n'y a que de cette façon que nous pouvons gagner les matchs à venir.
Darini Bombé avec Comelan et Clou. Dans les autres rencontres, le Cameroun déjà qualifié a été tenu en échec 0-0 par la Namibie. Et puis dans le groupe G, le Tchad et la Sierra Leone se neutralisent un partout, ce qui a pour conséquence de qualifier la Côte d'Ivoire.
Les champions d'Afrique qui joueront vendredi en attendant ce jeudi 9 rencontres et 2 possibles nouveaux qualifiés.
A commencer par le Nigeria, finaliste de la dernière édition. Les Super Eagles de retour en Côte d'Ivoire pour affronter le Bénin à Abidjan. Une victoire et les Nigérians rejoindront au Maroc, le Sénégal et le Burkina Faso. Les Lions et les Étalons face à face à Bamako. Un duel avec pour enjeu la première place du groupe. Et malgré les absences de 7 titulaires, dont Hervé Kofi, Dango Ouattara ou Bertrand Traoré, le sélectionneur burkinabé Brahma Traoré reste confiant.
On est déjà premier et on doit y demeurer. Mais maintenant, ça va dépendre de notre envie, de notre détermination et du plein engagement des joueurs. Mais ça ne sera pas un match facile. Mais nous savons qu'il faut vraiment tout donner pour gagner ce match. Et chaque jour, moi je sais que c'est difficile. Chaque jour, je dois avancer avec mon équipe. En tout cas, je suis confiant. Ce n'est pas parce qu'il y a 7 qui ne sont pas là. Mais j'ai amené 4 locaux. Ils sont tous motivés et ils savent également qui sont les espoirs de tout un peuple. En tout cas, ils mouilleront le maillot pour que nous puissions garder cette première place-là.
Burkina-Sénégal, coup d'envoi 19h TU.
Et cette journée d'éliminatoire commencera un peu plus tôt, 13h temps universel.
Avec face à des Algériens déjà qualifiés, la Guinée équatoriale, qui a donc besoin d'une victoire pour garantir sa présence à la CAN 2025. À la même heure, le Lesotho reçoit la Centrafrique et le Soudan du Sud accueille le Congo. Également au programme à 15h TU, le Burundi affronte le Malawi. Et à 16h temps universel, Madagascar reçoit la Tunisie, le Soudan va affronter le Niger et le Rwanda accueille la Libye.
Et voilà, tout est dit. Merci Antoine Grenier, c'était le Journal des Sports. Un reportage à Nairobi au Kenya dans une minute. Avant cela, l'essentiel de l'actualité internationale de ce jeudi. Le président élu des États-Unis continue d'annoncer ses nominations. Donald Trump installera en janvier Marco Rubio à la tête de la diplomatie américaine. Le sénateur de Floride, républicain, réputé hostile à la Chine et à l'Iran. Alors que pour diriger les renseignements, Donald Trump a choisi Tulsi Gabbard, ancienne militaire originaire d'Hawaï et transfuge du Parti démocrate. Elle a critiqué l'interventionnisme militaire des États-Unis. Donald Trump, par ailleurs, qui était reçu à la Maison-Blanche hier, par Joe Biden. La transition sera la plus fluide possible, a-t-il promis. Au Proche-Orient, l'armée israélienne annonce la mort de 6 soldats tués dans le sud du Liban, ce qui porte à 47 désormais le nombre de ces militaires tombés dans les combats avec le Hezbollah, l'armée israélienne qui a continué également hier de bombarder le sud de la capitale libanaise. Enfin, Human Rights Watch publie un rapport aujourd'hui qui accuse Israël de crimes contre l'humanité à Gaza. L'ONG en particulier pointe le déplacement forcé et massif de la population gazaoui depuis plus d'un an. Des femmes africaines qui racontent les histoires des femmes africaines, mettre en avant celles qui ont marqué et continuent aujourd'hui d'influencer le continent. C'est l'objectif de Kabrazen, un podcast en anglais ou en Kiswahili dont la deuxième saison est en cours de diffusion. À Nairobi, notre correspondante Alban Thiroir a rencontré les créatrices de ce podcast qui jongle entre faits historiques et fiction et qui s'adresse en priorité aux enfants.
And that is our story of Mekatilili.
La combattante anticolonialiste kenyane Mekatilili Wamenza, la reine Jinga en Angola ou encore la poète burundaise et militante des droits humains Ketini Viabandi. Chaque épisode de Kabrazen explore la vie d'une femme africaine qui a marqué le continent, qu'elle soit une contemporaine ou une figure historique, une façon de mettre ces femmes en lumière. Anne Mora, une des auteurs.
Je ne demande qu'à ce que l'on me prouve le contraire, mais à ce jour, je n'ai pas trouvé de programme scolaire qui met en avant le point de vue des femmes africaines. Pour moi, pourtant, et pour notre collectif LAM Sisterhood, c'est essentiel, car nous sommes nous-mêmes des femmes africaines. Regarder notre histoire à l'échelle mondiale et avoir l'impression de ne pas exister, c'est fou. Nous voulions rendre accessibles ces récits pour les enfants à travers le monde.
Aux origines de Kabrazen, il y a une pièce de théâtre que LAM Sisterhood a montée pour présenter des histoires de femmes, puis l'envie est venue de les raconter aux enfants. Si le projet est éducatif, il doit aussi rester divertissant. Les épisodes mélangent aussi bien des faits historiques que des éléments de récits, de mythes, de légendes et des chants. Aleya Kassam, elle aussi derrière le podcast.
Beaucoup d'histoires de ces femmes sont soit difficiles à trouver car elles n'ont pas été archivées, soit elles ont été confinées dans des espaces académiques, soit elles ont été racontées par des personnes qui ne nous représentent pas. Donc nous comblons les manques avec notre imagination. Il faut garder en tête que nous nous adressons à des enfants de 4 à 9 ans. Il faut réussir à transformer des notions très complexes comme le colonialisme en une histoire que les plus petits peuvent comprendre. C'est là que l'imaginaire joue un rôle.
Les histoires sont racontées par un personnage nommé Anti Chichi. Laura Ikumbo lui prête sa voix. C'est la dernière membre du trio de LAM Sisterhood. Elle le reconnaît. Choisir les portraits de femmes n'est pas chose facile.
Ce qui était important pour nous, c'était d'abord d'avoir une diversité géographique, c'est-à-dire que les épisodes représentent les femmes de plusieurs pays du continent. Et puis, nous avons aussi voulu une diversité en termes d'expérience, d'histoire, de façon à ce qu'un maximum d'enfants y trouvent un intérêt.
À travers Kabrazen, Anne, Aleya et Laura espèrent inspirer les plus jeunes. Le trio rêve de voir les épisodes traduits en plusieurs langues parlées sur le continent. Alban Thiroir, Nairobi, RFI.
Et demain, le reportage Afrique sera au Ghana, à la rencontre des réfugiés ivoiriens. Il y a 3 ans, le Haut Commissariat aux réfugiés estimait qu'ils étaient encore près de 15 000. Alors que la COP29 se tient en ce moment à Bakou, en Azerbaïdjan, c'est aussi l'occasion de faire le point sur les décisions prises lors de précédentes éditions. On s'intéresse ce matin, par exemple, au premier GTP lors de la COP26, ce partenariat où les pays occidentaux s'engageaient à soutenir financièrement la transition énergétique en Afrique du Sud à hauteur de 8,5 milliards de dollars. Depuis, la somme a été augmentée, le modèle a aussi été copié pour d'autres pays. Mais où en est-on pour l'Afrique du Sud? C'est le dossier Afrique Éco avec Claire Bargelès à Johannesburg.
Un plan d'investissement a depuis vu le jour, estimant à plus de 90 milliards d'euros les besoins afin de réaliser cette transition d'ici 2027. Outre que la somme du partenariat initial est donc loin du compte et qu'elle est constituée principalement de prêts et non de subventions, la distribution des fonds est aussi compliquée selon Joanne Jowicz. Elle gère le financement des projets au sein de la présidence.
Chaque pays amène de l'argent de façon séparée. Les contributions britanniques sont accordées d'une telle façon, les contributions américaine à travers un autre mécanisme et pour d'autres objectifs. Donc, on a affaire à un ensemble d'investissements assez complexes avec chaque pays qui utilise sa méthode habituelle de financement avec l'Afrique du Sud.
Du côté de la société civile, on regrette déjà un manque de transparence au niveau de la distribution des subventions, mais aussi lors du choix des 3 volets prioritaires, décarbonation de l'électricité, véhicules électriques et hydrogène vert, comme l'explique Liane Govindsamy du Centre pour les droits environnementaux.
Je pense qu'il y a eu beaucoup de scepticisme parce que les secteurs prioritaires ont été sélectionnés avant d'avoir consulté les citoyens. Par exemple, pour l'instant, en ce qui concerne les subventions, il y a eu davantage d'argent dépensé pour le secteur de l'hydrogène vert que pour le développement de nouvelles compétences. On peut donc se questionner sur ces choix et se demander si les pays donateurs viennent avec leurs idées prédéterminées ou s'ils écoutent pour savoir ce qui peut fonctionner le mieux en Afrique du Sud.
Après de nouvelles consultations, un plan d'action a finalement inclus d'autres volets à financer. Mais depuis, Pretoria a aussi décidé de retarder de 6 ans la mise hors service d'au moins 3 de ses centrales. Selon Soutame Maimele de l'Institut de recherche TIPS, il n'est pas évident pour le pays, qui produit près de 80% de son électricité à base de charbon, d'effectuer une transition rapide.
Nous avons eu des problèmes de pénurie d'énergie en Afrique du Sud, donc la question de la sécurité énergétique est un sujet clé. Et on sait aussi qu'il y aura beaucoup de travailleurs de la filière du charbon qui seront touchés, surtout dans la région de Mpumalanga. En tout, on parle de 150 à 200 000 emplois qui dépendent de la filière.
Beaucoup de questions restent également en suspens, comme le choix du futur mix énergétique du pays. Mais le plus gros pollueur du continent sera bien obligé de transformer ses moyens de production s'il veut continuer à exporter vers l'Europe malgré la taxe carbone aux frontières. Claire Bargelès, Johannesburg, RFI.
À Johannesburg, où il est 6h53. 5h53 à Libreville, au Gabon, où la campagne en vue du référendum constitutionnel de samedi est en train de s'achever. Dans 2 jours, les Gabonais auront la possibilité de dire oui ou non au projet de constitution proposé par les militaires qui ont renversé Ali Bongo l'an dernier. Notre invité Afrique ce matin est Raymond Donxima, Premier ministre, mais aussi coordinateur national de la campagne pour le oui. Alors que le projet prévoit un renforcement des pouvoirs du président et même une suppression du poste de Premier ministre, il estime que c'est en fait une clarification des choses et qu'elle est bienvenue.
Je suis mal à l'aise sur ce point précis pour la raison très simple que je suis Premier ministre en fonction et que ce point-là précisément conduit à la suppression du poste de Premier ministre. Mais je rappelle que 2 de mes anciens prédécesseurs à la fonction de Premier ministre ont indiqué que pour eux, il fallait supprimer la fonction de Premier ministre parce que celui-ci avait des pouvoirs fictifs. Donc, il valait mieux établir une clarté dans la liaison entre les pouvoirs décrits et les pouvoirs exercés. Donc, dès lors que le plus gros des personnes qui sont concernées se prononcent en faveur de quelque chose, je ne vois pas pourquoi je m'y opposerais. Je pense qu'on est en train de faire des jeux de mots, mais la réalité est que le président de la République disposait déjà de tous les pouvoirs qu'il a aujourd'hui et qu'on clarifie purement et simplement.
Le président peut, par exemple, dissoudre l'Assemblée, mais le Parlement n'a que la haute trahison comme moyen d'oppression contre lui. Est-ce que ce déséquilibre des pouvoirs n'est-il pas dommageable?
Écoutez, tous les cas de figure sont dommageables. On peut imaginer que telle situation soit dommageable. Moi, j'ai dit clairement que nous sommes dans un cas de figure où il faut prendre une décision à un moment donné. Nous verrons bien à la pratique si ça pose des problèmes, comment on fait pour revenir dessus.
Est-ce que finalement le Gabon ne court-il pas le risque de connaître les mêmes travers que sous le régime déchu, les mêmes causes produisant les mêmes conséquences?
Oui, c'est toujours possible dans tous les cas de figure au monde qu'on retrouve les mêmes travers. Mais est-ce que nous pouvions rester dans une position transitoire infinie? À un moment donné, il faut bien sortir de la transition. Et c'est vrai qu'il y a des points qui peuvent poser problème, mais à la pratique, on verra comment ils vont se déployer, comment ils vont se dérouler.
Le Premier ministre du Gabon, entretien à écouter en intégralité dans 1 heure sur RFI. Et du Gabon au Gondwana, où Mamane nous dit qu'on se rend compte parfois que la paix, ce n'est pas bon pour les affaires.
Oui, pour paraphraser une réplique culte du cinéma gondouanais, « I don't want peace, I want war, always ». On peut dire qu'aujourd'hui, de par ce vaste et triste monde, la paix est une valeur à la baisse, démodée, surannée, caduque. À la bourse ou au casino, mon ami ne mise jamais sur la paix, elle est perdante à tous les coups. Ainsi en est-il d'une profession très en vogue il y a quelques années, une profession dans laquelle il y avait beaucoup d'appelés et très peu d'élus, une profession qui marchait la main dans la main avec la paix, c'est la profession de médiateur. Médiateur de crise, médiateur de conflit, médiateur médecin avant la séparation, médecin avant l'assaut final, médiateur, le gars qu'il te faut pour arranger les choses. Il y a toutes sortes de médiateurs. Le plus connu est celui qui intervient quand la crise géopolitique a atteint son paroxysme entre ta femme et toi. Quand il n'y a plus de vaisselle à casser, quand dans le dictionnaire il n'y a plus d'adjectifs dégradants à se jeter à la face, quand il n'y a plus un seul de tes voisins qui ne soit pas au courant que tous les jours ta femme et toi, vous versez vos figures par terre, vous gâtez votre nom dans le quartier. Eh ben, c'est là qu'intervient le médiateur de crise conjugale, celui qui va recoller les morceaux entre ta moitié et toi en une seule phrase. Jacqueline, je t'avais prévenu, hein, tu perds ton temps avec ce vaurien, quitte-le. Voilà, la plupart du temps, dans ce genre de crise, ben, le médiateur est une médiatrice. C'est la meilleure copine de ta femme et elle ne t'aime pas. Regarde-le avec sa grosse tête de margouilla, tu mérites mieux que ça, hein, Jacqueline. Mais le médiateur qui nous intéresse aujourd'hui est d'une toute autre trempe. Lui aussi a plusieurs fois été appelé pour éviter une séparation irrémédiable ou une confrontation dévastatrice, une séparation entre président fondateur et l'opposition gondouanaise qui n'a pas accepté sa énième défaite aux élections, ou entre président fondateur et les rebelles insurgés qui, la plupart du temps, sont d'anciens opposants fatigués de protester avec la bouche, ou des brigands trafiquants ayant trouvé le bon filon pour gagner de l'argent et rouler dans des V8 en ville. Et donc, le médiateur est appelé à la rescousse pour mettre de l'huile, non pas sur le feu, mais dans les rouages. Il apaise, réconcilie, pousse tout le monde à mettre bas la terre. Alors, la question du jour, de la semaine et du mois et demi passé est la suivante. Où sont passés les médiateurs dans le conflit en Ukraine? Il n'y a pas de médiateurs pour Gaza ou Beyrouth? C'est vrai quoi, on dirait qu'ils sont tous partis en exil, les médiateurs, facilitateurs, intermédiaires, conciliateurs, intercesseurs, négociateurs, délégations de haut niveau, diplomates, ils sont passés où? Partout où on regarde, partout où on tend l'oreille, il n'y a que des pouces au crime qui parlent. Généraux, anciens espions à la retraite, journalistes, experts, spécialistes en tout, ennemis du cessez-le-feu en chemise blanche, parce que la paix est... Eh bien, la paix, ça n'est pas bon pour les affaires. À lundi.
À lundi. Merci, Maman. En effet, demain, à la même heure, c'est Charlotte Ntamack que l'on retrouvera pour la chronique La Parlotte de Charlotte. Merci à Didier Chérouze qui était à la réalisation de cette édition d'Afrique Matin. Et tout de suite, c'est RFI Matin qui débute. Bonjour, André-Anne Mellard.
Bonjour, Xavier Besson. Et bonjour à vous qui nous écoutez RFI Matin. Jusqu'à 9h, comme chaque jour, est notre tour du monde de l'actualité. Avec l'ensemble de la rédaction, ce matin, nous serons aux États-Unis, au Gabon, en Azerbaïdjan, où la COP29 se poursuit, à Madagascar aussi, où l'on se prépare à la saison des pluies. Nous serons également ce matin dans la bande de Gaza, où l'aide humanitaire peine toujours à faire son chemin. Bienvenue si vous nous rejoignez dans une minute le journal.
Bonjour, c'est Juan Gomez. Au Sénégal, c'est la dernière ligne droite avant les élections législatives de dimanche. D'ici là, les tensions vont-elles retomber? Pourquoi la campagne est-elle émaillée de violence? Êtes-vous surpris par ce climat politique? Vos réactions nous intéressent.
Appel sur l'actualité
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
À tout à l'heure sur RFI.
Tout à l'heure sur RFI, de vive voix, Pascal Paradou.
Étoile montante du rap français, Isa Yazouké sort son premier album, BO d'une vie, où comment une jeune fille placée dans un foyer trouve sa voix dans la musique. Et elle écrit, compose avec la vaillance d'un samouraï, puisqu'elle en porte le nom, un album d'amour, de foi et de résilience.
Écoutez De vive voix avec Pascal Paradou, du lundi au jeudi à 13h30 TU sur RFI.